Chapitre 69. Comme pour annoncer l'œuvre de sang à venir, le soleil se coucha sur Île-Dakar sur un fond de nuages rouges. Dans les rues ou les bâtiments, les gens sentaient que de grandes choses se préparaient. Anxieux, pleins d'anticipation ou résignés au pire, ils n'étaient en aucun cas indifférents. Mais il n'y aurait pas de massacre. Nietzsche en aurait mis sa tête à couper. Pas question que des innocents meurent et qu'elles finissent piégées dans cette cité de malheur. Lorsque la nuit fut tombée, des lumières naturelles ou magiques s'allumèrent dans les maisons et les auberges. Tels des prédateurs nocturnes, les rebelles de masques miroirs sortirent des ombres et se répandirent dans les rues. Ses cheveux blonds détachés, sa robe noire épousant à la perfection les contours de son corps, Nietzsche sortit elle aussi de son refuge. « J'en ai fini de me cacher, » dit-elle à masque miroir. Je veux que la souveraine à Île-Dakar tout entière sache qui a porté le coup de grâce à la tyrannie. C'est nous, magicienne. Oui, nous. Ce soir, le masque du chef des rebelles semblait encore plus poli que d'habitude. Sa tunique grise flottant autour de lui comme une nappe de brouillard, il avançait vers le rendez-vous le plus important de sa vie. Des centaines de rebelles l'attendaient dans un grand entrepôt, ironie du sort, celui où Mra avait été capturé. Ironie du sort? Non. Un choix de masque miroir pour son amie la magicienne. Afin de ne pas être reconnus, les rebelles portaient une longue tunique à capuche. Autour de leur cou, un pendentif gravé d'une rune d'incinération garantissait la disparition de leur corps s'ils tombaient au combat. Ainsi, il n'y aurait aucun moyen d'identifier les morts et de remonter jusqu'à leurs compagnons. Une fois dans l'entrepôt, Nietzsche aperçut Rendel qui serrait nerveusement son pendentif. « Tu n'en auras plus besoin, » lui souffla-t-elle. « À Île-Dakar, les combattants de la liberté ne devront plus se cacher. » À la lueur de lanterne accrochée aux poutres, la magicienne balaya du regard la foule de ses frères d'armes. « Après cette nuit, tu seras fier de clamer que tu soutiens Masque Miroir. Et si tu meurs au combat, ta famille et tes amis, admirant ton courage, feront savoir à tout le monde quel homme tu étais et ce que tu auras fait. » À ces mots, Rendel abaissa sa capuche, libérant ses cheveux mi-longs. « Ce soir, je n'ai pas l'intention de me cacher. » Près de lui, une femme au visage parcheminé l'imita. En quelques secondes, des dizaines puis des centaines de rebelles dévoilèrent leurs traits. « Le temps de se cacher est révolu !» crièrent-ils d'une seule voix. Nietzsche sentit le don s'éveiller en elle, un picotement qui devint de plus en plus fort jusqu'à faire se dresser les petits poils de sa nuque. Se tournant vers Masque Miroir, elle vit son propre reflet là où aurait dû se trouver le visage du chef de la rébellion. Le regardant intensément, elle attendit qu'il révèle enfin son visage aux hommes et aux femmes prêts à mourir pour lui. Même s'il avait été défiguré par un sorcier de chair devant ses fidèles, le montrer n'avait aucune importance. Il leva une main, ajusta le masque sur son visage, mais ne le retira pas. « C'est ce que je suis, » dit-il, sa voix étouffée portant quand même aux quatre coins de l'entrepôt. « L'homme que son peuple suit !»«
Masque miroir !»
cria Rendel.
« Masque miroir! Masque miroir !»
reprit en chœur la foule. Partout dans les rues, les gens se préparaient à l'œuvre de sang. Depuis que Thora et le conseil l'avaient annoncé, la ville entière retenait son souffle, tétanisée par l'attente. Selon les espions de la rébellion, les 300 esclaves, drogués pour être dociles, étaient déjà enfermés dans un vaste enclos près de la Grande Pyramide. Malgré les heures passées à préparer le plan, l'ordre des actions, la priorité des cibles, la manière de consolider au plus vite la victoire, Masque Miroir semblait hésiter. À force de discuter avec lui de stratégie, Nietzsche avait fini par comprendre qu'il appréciait ses partisans et tirait une grande satisfaction de son rôle de chef. Mais le but suprême, à l'évidence, ne le motivait pas plus que ça. Friand d'escarmouches, il adorait semer le trouble en ville. Fier que ses partisans enfoncent des éclats de miroir entre les blocs de pierre ou peignent des slogans subversifs sur les murs, tenait-il tant que ça à triompher? Critiquer un gouvernement corrompu était facile, mais quid de diriger une ville? Alors que la révolte couvait depuis des années, le mouvement n'avait pas accompli grand-chose jusqu'à l'arrivée de Nietzsche et de ses compagnons. Pour la magicienne, c'était inacceptable. Dans son monde à elle, on se battait pour gagner. Voyant que Masque Miroir ne savait que dire, elle prit la parole.
« Ce soir, un cauchemar s'achèvera. La nouvelle se répand partout en ville, et les esclaves murmurent, même ceux qui ne nous ont pas rejoints. Quand ils verront les émeutes dans les rues, ils sauront que faire. Très vite, nous compterons des milliers d'hommes et de femmes dans nos rangs. L'œuvre de sang est prévue pour minuit, mais il fait déjà sombre et notre heure a sonné. Ce soir, du sang coulera, et ce ne sera pas celui des 300 victimes sacrificielles.
« Comment allons-nous combattre les sorciers ?»
demanda un rebelle, la voix tremblante d'émotion.
« Nous n'avons pas le don !»
Le front déjà dégarni, cet homme encore très jeune portait sur le visage des stigmates de la variole.
« Laissez-moi cette partie-là, » répondit Nietzsche. « J'ai une dette envers la Sovrena, une dette de sang. »
Des étincelles dans les yeux, Rendel se tourna vers ses frères d'armes.
« Et si vous êtes tués au moins, vous mourrez libre. Dès qu'il combat, un opprimé n'est plus une victime. »
La femme au visage parcheminé prit la main de Rendel qui baissa très légèrement la voix.
« Qu'on survive ou non est secondaire. »«
Masque miroir, masque miroir !»
entonna quelqu'un.
« Nietzsche, Nietzsche !»
lui répondit Rendel. Dans l'air, la magicienne sentit crépiter la force de son défi et de sa magie.
« Ce n'est pas un cri de ralliement, » dit-elle, « mais un appel au combat. Le premier coup, c'est moi qui le porterai. Avec un petit groupe, j'irai dans les tunnels de la reine et nous libérerons tous les prisonniers, humains ou animaux. Après, ils nous aideront. »
Avec Bannon et Mara à ses côtés, la magicienne, pour un temps, redeviendrait la maîtresse de la mort. Pas au service d'un tyran comme jadis, mais pour aider un peuple. Et par-dessus tout, pour que se réalise un jour le rêve de paix et de prospérité de Richard.
« Je viendrai avec toi, » dit Masque Miroir. « Sur le premier champ de bataille, il faut que nous soyons ensemble. »
Nietzsche ne trouva rien à dire contre cela. Les mains sur le manche des couteaux qui remplaçaient ceux qu'elle avait perdus lors de son combat contre Adessa puis Thora, elle lança
« Nous avons tout ce qu'il nous faut. »
Grâce aux images glanées par l'intermédiaire du lien, Nietzsche savait très exactement où trouver Mara. Mais pour guider ses compagnons, elle allait devoir se fier aux odeurs et aux sons plus qu'à ce qu'elle voyait. Car c'était ainsi que fonctionnait l'essence de la panthère. L'essentiel restait d'arriver à destination.
« Ne répugnez pas à tuer, »
dit la magicienne, assez fort pour que tout le monde l'entende.
« Nos ennemis n'auront pas le moindre scrupule. »
Le groupe avança en silence dans les rues. Presque à chaque intersection, des renforts vinrent grossir ses rangs. Désormais, la vitesse d'exécution était une donnée clé. Plus vite les bêtes de combat se déchaîneraient dans la ville, et mieux ce serait.
« J'attends ce jour depuis longtemps, » dit Masque Miroir. « Mon peuple est prêt. Ildakar ne s'attend pas à la tempête qui va la frapper. »
Aux abords de la ménagerie, la puanteur habituelle monta aux narines de Nietzsche. Sentant une chaleur familière dans un coin de son esprit, elle comprit que sa sœur d'élection n'était pas loin. Dans sa cage, la panthère aussi devait sentir l'approche de son humaine. Oubliant toute prudence, Nietzsche accéléra le pas. À l'entrée du tunnel des animaux, plusieurs cages contenaient des renards, des coyotes et des chacals, de simples proies d'entraînement pour les vrais prédateurs. Les quatre gardes de faction brandirent leurs armes.
« Halte ! Vous n'avez rien à faire ici !»
Et voilà, ça commence, souffla Masque Miroir tout excité. D'un point d'air magistral, Nietzsche sonna pour le compte les quatre fâcheux.
« Libérez ces animaux, »
dit-elle à ses compagnons.
« Ils appartiennent à la nature. »
Des rebelles allèrent ouvrir une des cages. Quand ils en jaillirent comme des fous, les coyotes manquèrent renverser leur sauveur. Dans les autres cages, les renards et les chacals glapirent ou aboyèrent d'indignation. Deux autres gardes accoururent dans un cliquetis de plastron et dégainèrent leur épée. Ouvrant la cage des chacals, les rebelles s'écartèrent et laissèrent les bêtes surexcitées fondre sur les deux hommes. Le premier succomba sous le nombre et le second s'enfuit en criant au secours. Cessant de s'intéresser à ce qui arrivait dans les rues, Nietzsche entra dans le tunnel d'où montaient des odeurs de sang, d'excréments et de fourrures humides.
« Ouvrez toutes les cages !»
lança-t-elle.
« Cette fois, libérez toutes les bêtes de combat. Il faudra ça pour empêcher l'œuvre de sang. »
Laissant agir ses compagnons, Nietzsche avança, sachant très bien où aller.
De toute façon, Mra l'appelait à travers leurs liens.
Les tunnels de la ménagerie formaient un véritable labyrinthe, mais Nietzsche se guida grâce à ce que sa sœur d'élection avait vu et surtout senti. Attiré par les cris et les rugissements, des ouvriers et des esclaves accouraient. Dès qu'ils virent la magicienne et les quelques rebelles qui la suivaient, ils détalèrent sans demander leur reste, presque tous en tout cas, puisque certains, changeant de camp, entreprirent d'aider la subversion. Déboulant du tunnel menant à leur quartier, encore une information fournie par Mra, les trois apprentis dresseurs barrèrent le chemin à la magicienne. Leur chef Dorbo siffla entre ses dents.
« Au nom du gardien, que croyez-vous venir faire ici ?»
Quand Masque Miroir déboula derrière Nietzsche, le tortionnaire sembla ne pas en croire ses yeux.
« Nous avons l'intention de semer le désordre en ville, très cher, »
répondit le chef des rebelles. Dans le dos de la magicienne, les émeutiers continuaient à ouvrir des cages, d'où s'échappaient des loups à pic, des dragons des marais et des sangliers. Un taureau géant sortit d'un enclos et chargea avec ses compagnons d'infortune. Modifié par magie, ce monstre faisait trembler le sol sous ses pas de titan. Dorbo et ses deux collègues levèrent les mains pour contraindre les animaux à s'arrêter. Insensible à leur magie, le taureau sembla au contraire excité, comme si on venait de le narguer avec un carré de tissu rouge. Masque Miroir s'écarta pour céder le passage à ce cyclone. Un des dresseurs craqua et s'enfuit, tandis que les deux autres continuaient à invoquer leur magie. Mais ça ne servait plus à rien. Au dernier moment, Dorbo tenta de fuir, mais le taureau le transperça avec ses incroyables cornes. Un flot de sang jaillit de la bouche du chef des dresseurs, ses yeux semblant vouloir sauter de leurs orbites. En se débattant, il referma les mains sur une des cornes dont les pointes dépassaient de son dos. Quand il eut écrabouillé l'autre dresseur sous ses sabots, le taureau repartit à la charge, le cadavre de Dorbo toujours fiché sur les cornes. Vite rattrapé, le dernier dresseur finit lui aussi embouilli sous les pattes du monstre. La magie des dresseurs ayant disparu avec eux, la fureur des animaux ne connut plus de limite. Satisfaite par la tournure des événements, Nietzsche se mit en quête d'une cage bien particulière. Masque Miroir lui emboîta le pas.
« Ça se passe bien, non ?»
dit-il en désignant les dépouilles des deux dresseurs. Quand elle vit enfin la cage de Mra, Nietzsche soupira de soulagement.
« Masque Miroir, va libérer les gladiateurs. Là où on les garde, tu trouveras des armes. Distribue-les à ces hommes et dis-leur de se battre pour survivre. C'est bien plus important qu'un titre de champion. »
« À tes ordres, magicienne, » répondit le chef des rebelles, non sans une once d'ironie.
« Trouve Bannon et dis-lui que je suis là. »
Sans discuter, le chef des rebelles se mit en chemin vers les cellules des gladiateurs. Partout, les cris des gardes étaient couverts par la cacophonie des rugissements des animaux libérés. Une fois devant la cage de Mra, Nietzsche eut le cœur serré de découvrir à quel point elle avait souffert de la captivité et de la brutalité des dresseurs. Malgré tout, dès qu'elle reconnut sa sœur d'élection, la panthère rugit d'allégresse. Nietzsche ne perdit pas de temps. Faisant fondre la serrure, elle ouvrit la porte. Ivre de bonheur, Mra bondit hors de la geôle. Avec un bruit proche du ronronnement d'un chat, elle lécha les mains de la magicienne. Autour d'elle, d'autres animaux fonçaient vers la liberté, mais elle n'avait aucune intention d'être de nouveau séparée de Nietzsche.
« Suis-moi, Mra !»
Sur le chemin des fosses d'entraînement, la magicienne s'arrêta soudain, quand elle vit Masque Miroir immobile à quelques pas devant elle. Les bras écartés, il brandissait le couteau rituel qui lui avait servi à égorger Dar.
« Magicienne, nous avons un problème, » dit-il par-dessus son épaule.
En face de lui, Adessa pointait son épée un rictus sur les lèvres. À ses pieds, Nietzsche remarqua plusieurs petits tas de cendres, les restes de plusieurs rebelles sûrement tués de la main même de la chef des Moracites.
« Tu es un félon, »
dit-elle à Masque Miroir,
« un empêcheur de tourner en rond et une maladie infectieuse. »
Adessa se fendit. Reculant à temps, Masque Miroir voulut contre-attaquer avec son couteau, mais il échoua lamentablement. À l'évidence, il manquait d'entraînement.
« Te tuer sera un jeu d'enfant !»
rugit Adessa. Joignant le geste à la menace, elle entailla la tunique du rebelle, manquant la peau de peu.
« La parlotte, voilà tout ce que tu maîtrises. À cause de ton incompétence, tu laisses les autres se battre pour toi. »«
Un peu d'aide,
ne sera pas superflu, dit Masque Miroir à l'intention de Nietzsche.
Ce sera un plaisir, cher ami.
Elle avança et Mra l'imita. Rapide comme l'éclair, Adessa frappa du poing gauche et parvint à tromper la garde de Masque Miroir. Touché à l'estomac, il recula sous l'impact et lâcha son couteau. Poussant son avantage, la moracite lui propulsa vers le visage le pommeau de son épée courte. À l'impact, le miroir du masque se brisa. Avec les deux mains, le chef des rebelles tenta de garder ensemble les morceaux d'où suintait du sang. Nietzsche et Mra attaquèrent. Alors que Masque Miroir, le souffle coupé, reculait en titubant, la panthère projeta la moracite à terre. Du coin de l'œil, Nietzsche vit le chef de la rébellion s'engouffrer dans un tunnel latéral. Coincé sous la panthère, Adessa la martelait de coups de poing et tentait de l'embrocher avec son épée. Pour sauver sa sœur d'élection, Nietzsche invoqua sa magie. À cause des runes défensives, elle ne pourrait pas frapper directement Adessa, mais elle avait enfin compris ce qu'elle aurait dû faire pendant leur duel dans la tour du pouvoir. Tout simplement, elle fit chauffer la poignée de l'épée jusqu'à ce que la moracite, criant de douleur, soit obligée de la lâcher. Même ainsi, Adessa continua à se débattre, toucha Mra à la gorge et réussit à se dégager. Alors que Nietzsche et sa sœur se préparaient à attaquer de nouveau, trois autres moracites déboulèrent et se placèrent en protection devant leur chef. En l'absence de Masque Miroir, Nietzsche allait avoir du pain sur la planche, mais ça ne la dérangeait pas. En grognant, deux sangliers tachetés émergèrent d'un tunnel et chargèrent les trois femmes en cuir noir. L'une d'elles tenta de s'écarter, mais ne fut pas assez vive. Éventrée par les défenses du monstre, elle s'écroula et cessa de bouger quand l'animal modifié lui eut brisé la nuque sous ses sabots. Pour éviter le deuxième monstre, suivi par trois loups à pic, Nietzsche et Mra durent se jeter dans un tunnel latéral. Furieuse d'avoir dû battre en retraite, la magicienne se jura de prendre sa revanche sur Adessa. Mais la moracite avait bien entendu profiter de la diversion pour se volatiliser. Voyant des animaux en fureur passer dans le tunnel principal, Mra feula comme si elle avait envie de se joindre à eux.
« Ne t'inquiète pas, »
dit Nietzsche, les doigts lissant la fourrure du fauve à la base de son cou.
« Nous aurons une autre chance. Je te jure que nous la retrouverons. »
Dans sa mémoire onirique, la magicienne puisa la configuration des tunnels.
« Mais d'abord, allons libérer Bannon. »